Bon.
Alors, sinon, c'est vrai que la question. Alors, je crois que l'effort d'essayer de faire une sorte de, enfin disons, de faire tourner, de faire tourner ces termes
de façon ordonnée,
est méritoire. Bien.
Je n'ai jamais eu ça. Quand j'étais à l'école, j'avais jamais élève méritoire. J'avais toujours peu mieux faire.
Bon, alors. Bon, d'abord, je vais sur effectivement l'exposé très très bien ordonné pour le coup. Là, j'ai quelques petits, des remarques. Alors. Quelque chose, effectivement, il y a plusieurs problèmes posés. Je suis pas sûr qu'on puisse, faire tourner, faire équivaloir ces termes. Je pense qu'il y a une équivalence possible entre certitude et conviction. Avec cette pointe pour ce qui est de la conviction qui est la place du sujet. Bon, disons. Mais à mon avis, l'idée, la notion de croyance, justement, et je dirais toute cette affaire autour de l'athée, est très démonstrative de la place de la croyance. Et son rapport à la parole, c'est-à-dire la croyance implique la parole, implique Dieu, etc. C'est-à-dire implique l'autre. Bon. Alors, sur là-dessus, donc, ça, je trouve ça très bien. J'aimerais, si vous pouvez. Donner un peu de précision sur le fameux Dieu des philosophes et Dieu, et le Dieu des patriarches, c'est-à-dire en somme, le sujet supposé dans le savoir qui, dans l'analyse, conjoint les deux, faudrait m'expliquer. Parce que ça, j'ai pas. Et notamment, et évidemment, la question qu'est-ce que veut dire, vous vous êtes posé la question manifestement, qu'est-ce que veut dire exactement cet athée viable, hein, qui ne se contredit pas à tout bout de champ? Ça, c'est vraiment l'os. Alors, l'os de l'affaire, bien vu comment l'athée. C'est vrai, est une question tout à fait essentielle dans notre thème, en tout cas, ça c'est absolument sûr. Et donc, sur ces deux questions, c'est-à-dire parce que le Dieu des philosophes, je suis pas sûr, disons, je pose mon hypothèse. Sujet supposé savoir, il est articulé, justement, il me semble que Lacan fait la critique, hein, il n'est pas articulé sur le Dieu des philosophes. D'après moi, enfin c'est ce que j'avais compris, mais peut-être que je me trompe, hein, il me semblait qu'il était bien articulé sur le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Moi, c'est comme ça que j'avais compris le sujet supposé savoir. C'est-à-dire qu'il écarte, le sujet de la science, disons.
Dieu non trompeur. Le sujet supposé savoir. Le Dieu non trompeur.
Oui.
Rendre la vérité. Enfin bon, ça, je vais répondre.
Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'en effet, il y a. C'est une question compliquée, disons. Hein, et donc ça, c'est vrai, j'aimerais bien. La question que je poserai à Marc, c'est plutôt comment on peut faire équivaloir, ou disons faire traiter sur le même mode, la croyance et la certitude et la conviction. C'est ça ma question. C'est-à-dire comment on peut...
Je ne comprends pas.
Hein ?
Je ne comprends pas, ou alors je recommence mon exposé.
J'ai du mal à saisir, que la croyance puisse jouer comme ça, puisse jouer de toutes les places. C'est ça que je comprends. C'est-à-dire, c'est au départ l'idée que la croyance,
ça repose, si je peux me permettre de commencer à te répondre, ça repose donc sur le parallèle que j'ai fait, la façon dont je me suis inspiré du temps logique. Lacan dit que chacun des temps correspond à la fois à un niveau de subjectivation différent.
Oui.
Le je suis blanc, ça commence d'ailleurs par un je suis noir. Si j'étais noir, ça continue par le je ne suis pas noir, donc je suis blanc. Mais la croyance, la conviction, c'est je ne suis pas noir. Et ça devient une certitude vérifiée dans la troisième étape, qui est le niveau le plus élevé de la subjectivation. Il me semble qu'effectivement, ce sont ces trois. D'ailleurs, Lacan les utilise, je n'ai pas été revoir le texte à la loupe, mais il utilise ces termes et c'est comme ça qu'il les ordonne. Par des niveaux de subjectivation progressifs, le plus élevé étant la certitude. D'ailleurs, ce qui m'a paru intéressant, je le redis, c'est que justement Lacan dit que chacun est résorbé dans le suivant, le dernier les englobe tous. C'est-à-dire la certitude, effectivement, englobe croyance et conviction, mais en même temps, dans la croyance, puisqu'elle est anticipée, la certitude, dans la croyance, tout imaginaire qu'elle paraisse, il y a déjà un noyau de certitude. D'où mon amusement à commencer en mettant la croyance dans l'imaginaire, ce qui répond, encore une fois, à l'interlocution normale, et à chercher à voir comment on arrive à mettre cette croyance du côté du réel. Ce qu'il y a de réel dans la croyance.
Bon, alors attendez, on va... Déjà, vous avez...
Bon, c'est vrai qu'on n'a pas pris du tout les... Enfin, on n'a pas les mêmes définitions de croyance, certitude et conviction, puisque moi j'ai situé... Enfin, quoi que sur croyance et certitude... je pense qu'on est très proches. Par contre, c'est vrai que j'ai plus situé la conviction dans la relation aux autres, hein, c'est-à-dire dans la manifestation de la croyance ou de la certitude. Voilà.
D'accord. Hein,
c'est pas tout à fait pareil.
La conviction,
hein, dans comme manifestation de la croyance ou de la certitude.
Bah, là-dessus, on est d'accord, puisque j'ai dit que pour prendre la parole, il ne fallait pas seulement une croyance, mais il fallait déjà la conviction. C'est ce qui met en mouvement. On peut prendre indéfiniment sans bouger.
Après, bon, c'est vrai que ces termes sont vraiment... Moi, j'explorais pas mal les dictionnaires au départ, c'était vraiment tout se renvoyer à tout, on arrive... D'où mon idée de partir de l'athéisme, en disant, bon, ben, en gros, un peu tenter la preuve par l'absurde. Qu'est-ce que ça serait de ne pas croire. Voilà. C'est un peu ce qui m'a amené à me confronter à cette question de Dieu et donc la différence entre ce Dieu des philosophes et ce Dieu des prophètes. Ah, c'est Pascal, hein, c'est le mémorial de Pascal. Donc on distingue les deux et que Lacan reprend. Alors, dans le sujet supposé savoir, donc là j'avais repris ce qu'avait dit Colette Solaire. Hein, c'est dommage qu'elle ne soit pas là ce soir. Donc elle dit que ça conjoint les dieux, les deux dieux.
Les dieux.
Voilà. Le sujet supposé savoir conjoint les dieux. Celui des philosophes, et, c'est-à-dire le garant de la vérité, le savoir, mais aussi donc le dieu de volonté, de jouissance et de désir. Voilà.
Oui,
c'est un peu le... Donc je suis partie de là. Alors, avec donc la question de ce qui se passe à la fin de l'analyse, quoi.
Oui, c'est ça. Mais...
Qu'est-ce qu'il advient de cette place, on va dire, de cette fonction Dieu ? Enfin, je préfère parler de fonction Dieu, c'est plus facile.
Oui.
Qu'est-ce qu'il advient de cette fonction à la fin de l'analyse, quoi ? Voilà, c'était ma question.
C'est pas une réponse. C'est une autre citation de Lacan dans D'un autre à l'autre. Il dit que le... Il dit que l'analyste est le seul athée véritable, parce qu'il peut, il doit se passer du grand autre. Il a perdu d'autres formules plus tard, mais moi j'ai retenu celle-là. Et puis, se convaincre, il dit que l'analyste, il doit se convaincre que l'inconscient existe et que la psychanalyse a des effets. Il dit ça dans le moment concluant.
C'est à la fin.
Voilà,
c'est
une petite remarque.
Je peux enchaîner sur la même longueur d'onde. Il me semble que dire que Dieu est inconscient, ça nous renvoie à la question de l'autre, comme vous l'avez si bien développé. Alors, il me semble quand même qu'il y a un athéisme tendanciel de l'analyse avec la question que vous venez de poser, à savoir que la fin de l'analyse, la destitution de quelque chose qui ferait garantie, c'est quand même un athéisme tendanciel. Alors, on me dira que la garantie ne résume pas la question du sujet supposé savoir, comme vous venez de le rappeler. Certes, il y a la question de la jouissance de cet autre supposé ou imaginé ou inconscient. Et là, alors, se pose, à mon avis, la question précisément de la politique. Puisque précisément, est-ce que c'est simplement un choix de singularité que le sacrifice aux dieux obscurs ? Ou bien est-ce que l'analyse a quelque chose à en dire ? Parce que à la fin du séminaire 11, là, c'est clairement posé. Alors, c'est une question tout à fait actuelle. Ça, c'était ma première remarque, plutôt pour vous. Et la seconde, je ne sais pas si elle est liée à Marc, et vous me direz si c'est lié ou pas. Moi, je n'ai pas compris le point 1. Si j'ai bien compris, les trois ronds à gauche, c'est le temps 1 pour moi. Alors, l'idée que réel et certitude conviennent, ne me paraît pas clair. Moi, il me paraît au contraire que s'il y a un point où la psychanalyse lacanienne, disons, et la science contemporaine convergent, c'est ce que la physique quantique nous dit du réel. C'est-à-dire qu'il est régi par un principe d'incertitude. Et je trouve que ça convient assez bien avec notre idée du réel sans loi. Parce que je ne vois pas quelle certitude peut se fonder sur un réel sans loi. Donc, ça rejoint un petit peu la question précédente, mais peut-être que je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.
On prend une autre question.
Par rapport à ces trois termes, en fait, sur la croyance, ça me faisait penser aux hallucinations auditives des psychotiquement, qui croient leur voix. Ils croient leur voix, et je pensais aussi à cette, ce qu'il dit Lacan sur une femme, c'est un symptôme pour un homme, dans le sens où il la croit. C'est-à-dire, il croit ce qu'elle dit, quoi. Et les psychotiques aussi, avec les hallucinations, ils croient ce qu'ils entendent. Donc, je me posais la question sur les symptômes, les liens entre la croyance et les symptômes. Et par rapport à la conviction, en fait, je me disais, bon, ça c'est juste une petite anecdote, mais je me disais, la conviction, en fait, ça me faisait penser qu'on dit aussi convaincre l'autre. Cette dimension de, voilà, une idée, et on doit convaincre les autres de cette idée, enfin, bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein. Voilà, mais c'est cette notion des autres auxquels on doit faire adhérer à cette idée. Et puis pour la certitude, en fait, bon, moi je la pense beaucoup dans la psychose. Ailleurs, je n'arrive pas à la centrer, en fait. Mais peut-être vous en avez des idées, mais pour moi, dans la psychose, c'est là où elle est le plus éclairante, je dirais pour moi. Puisque, pour le sujet, c'est quand il dit par exemple. Il dit, voilà, je suis connu dans les médias. Et il dit, ça, c'est pas délirant. Enfin, donc, il est en train de dire qu'en fin de compte, bah, pensez pas que c'est faux. Ça, c'est du rêve. Pour moi, ça, c'est du...
certitude.
Voilà, de vérifier. Ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout le temps dedans. Il est tout le temps dans cette certitude. Donc, c'est au niveau de la psychose que je... Il me semble le plus éclairant, mais voilà, peut-être il y a d'autres. Je ne sais pas. Voilà.
Je vais peut-être rebondir sur cette question et en rajouter un petit bout de question sur la. On entend ? Non ?
Oui,
oui, sur la certitude. Je pensais à ce que Lacan dit. Je pensais d'ailleurs à un moment donné que Claire, vous alliez le dire, parce que vous avez cité à plusieurs reprises des passages du séminaire 11. Et il y a un passage du séminaire auquel je pensais à propos de la certitude, où Lacan est en train de parler de Descartes. Et donc à propos de la certitude chez Descartes, il dit quelque chose que j'ai toujours retenu, parce que ça m'avait beaucoup frappé, il me semble que c'est le cas, qu'il parlait en même temps de ce qu'il en est d'une analyse, il dit que pour Descartes, la certitude n'est jamais une position acquise.
Une position acquise.
Acquise. Ce n'est jamais quelque chose d'acquis. Hein? C'est un point qu'on atteint à travers une assaise. Donc, selon Lacan, la certitude pour Descartes est une assaise. Et on y atteint à un moment. Mais ce n'est jamais acquis pour toujours. C'est-à-dire que ça continue. Et en cela, la certitude de Descartes me paraît l'exemple type de la certitude que j'appellerais subjective, qui désigne, qui montre une position du sujet qui est à l'opposé de la position du psychotique. Et qui, par contre, renvoie à ce que nous considérons être la division du sujet. Donc, moi, je voulais vous poser cette question à tous les deux, hein, parce que vous y avez touché de différentes façons, mais voilà.
Bon, alors, une autre question ou non ? On va peut-être répondre. Hein,
oui.
Je vais vous répondre.
Je cherche ma citation. Ouais, sur la certitude. Oui, sur la certitude. Enfin, c'est vrai que j'ai pas relevé en effet cette citation concernant Descartes. Ce qui m'avait, parce que j'ai, ouais, parce que c'était vraiment une chose que j'ai. En fait, j'ai découvert ça en travaillant la question, quoi. Ce lien de la certitude avec l'énigme, justement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée. Et c'est ce que je crois que je vais avoir cité en disant que bon, finalement, la certitude de Descartes, c'est le déplacement de la certitude de l'angoisse. Ça, c'est vrai que je suis restée sur cette question. Alors, ben oui, c'est dans la mesure où c'est une certitude qui tient à l'énigme quand même. Est-ce que l'énigme reste toujours là, d'une certaine façon? Est-ce que c'est peut-être en ça que c'est jamais assuré complètement? Peut-être comme ça que je le dirais. Sauf qu'à un moment donné, il y a un acte qui fait que quelque chose qui s'affirme. Attends, je cherche ma citation, j'arrive plus à la retrouver. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il dit que la certitude qui s'attache à ce que j'appellerais la peuvre essentialiste, en gros la question de l'existence, c'est pas tout à fait ça. Celle qui n'est pas que dans Saint Anselme, donc qui lui travaille sur la. S'exprime sur l'existence de Dieu, vous la retrouvez aussi bien dans Descartes. Celle qui tend à se fonder dans la perfection objective de l'idée pour y fonder l'existence, celle-ci, cette certitude, si elle se maintient malgré toute la critique, donc en effet, si nous sommes toujours portés par quelques biais d'y revenir, c'est qu'elle n'est que l'ombre d'une autre certitude, et cette certitude, c'est celle de l'angoisse. Voilà, j'avais plutôt retenu ce lien entre certitude, angoisse, et donc son déplacement, qui m'avait beaucoup intéressée donc, par rapport à la certitude de Descartes.
Vous vouliez dire quelque chose sur oui. Sur l'affaire du sur la hein oui sur cette sur l'histoire du dieu
Sur le philosophe,
hein. Oui. Et sur le dieu, celui qui ne se contredit pas, voilà. Sur la non-contradiction, si vous voulez.
Alors, bon, moi, j'ai essayé de m'en donner une explication. Bon, du côté du dieu des philosophes, ben, ne pas se contredire, c'est ne pas se prendre pour le sujet supposé savoir. Enfin, c'est ce que je... Ne pas se prendre, en tout cas, pour celui qui sait, pour le garant de la vérité. Ça me paraît le plus facile. De l'autre côté, on a la question du désir. Alors, et là, ça devient plus compliqué. Moi, j'ai. Donc, là, c'est aussi donc, du côté de la jouissance. Donc, l'idée que je m'en suis faite, en tout cas, c'est donc, bon, bah, d'aller du côté de la dévalorisation de la jouissance, de vraiment réduire ça jusqu'à ce qui est possible. Quoi. Mais il reste quelque chose.
Enfin, ce que je voulais dire, c'est que en ce qui concerne le sujet supposé savoir, c'est vrai que quand on est du côté du dieu trompeur, enfin du dieu, eh bien là, en effet, disons que la certitude qui s'en découle, qui va donner la certitude scientifique, c'est-à-dire qui donne la science, c'est ça le point. Parce que finalement, bon, c'est vrai, il y a deux certitudes. Il y a la certitude de la science,
qui est relative,
donc qui est réglée sur les écritures, avec leurs limites, comme l'a rappelé Bernard, c'est-à-dire l'incertitude des modèles de la science qui incluent l'incertitude dans l'incertitude, néanmoins, c'est les petites lettres, c'est la mise en place des lettres. Ça, il y a cette certitude-là. Et il y a la certitude de la psychose qui, effectivement, est apparemment d'un autre ordre. Justement, notre difficulté, c'est d'ordonner les deux. Bon, mais c'est vrai que...
Peut-être une troisième.
Oh, c'est tout à fait possible. Mais c'est ce que il me semblait bien quand même dans l'affaire du sujet supposé savoir, c'est vrai qu'il se réfère à Descartes, mais la façon dont quand il parle du Dieu est inconscient, c'est l'autre versant qui est pris. C'est le versant du dieu des prophètes. Hein, voilà. Bon, c'est ce que...
Le Dieu joue sens.
C'est ça.
Qui n'a pas encore fait son exil, d'accord.
Voilà, c'est
ça. Dieu sens.
C'est ça. Et donc, du coup, la question de l'athée a deux faces.
Deux faces.
Marc, tu...
Oui, donc je redis, j'ai essayé avec ma petite postuler qu'il y avait dans croyance, conviction, certitude, une part imaginaire, de réel, de symbolique, et de voir comment ça se compile. Et donc par rapport au réel certitude, le réel s'en va certainement, bien sûr, le réel de la langue, c'est justement pas la chaîne, là on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'il est sans voix qu'il ne s'attrape pas. Il s'attrape par des bouts. Il s'attrape par des bouts, et c'est ce que nous montre l'unul, justement. Il s'attrape par des bouts, et par exemple, pour prendre le schéma de départ, puisque c'est une certitude en réel, eh bien, il s'attrape par le bout, effectivement, de l'angoisse, de ce qui fait malaise dans la représentation du moi. Le symptôme aussi, et il s'attrape par la croyance dans, effectivement, l'autre, non pas supposé savoir, mais l'autre sachant, l'autre divin qui ne manque de rien. Mais il s'attrape, façon de dire, puisque justement, il est divisé. Il est divisé, la certitude est elle-même, c'est là, on fait jouer la petite machine à l'aveugle, ça donne des... Et après, ce qui est amusant, c'est de commenter les résultats. Alors, si on la manie de façon plus d'incertitude réelle, elle est divisée elle-même, donc en cette dimension d'angoisse d'un côté et en croyance à l'autre du savoir absolu, du savoir dernier de l'autre, c'est les deux parts, et l'une exclut l'autre, tu n'as pas les deux en même temps, ne s'homogénise pas, et les deux existent au moi. C'est-à-dire que le moi, lui, effectivement, le moi qui parle, est parfaitement incertain quant à sa certitude. Des malaises. Donc tu vois, c'est un exemple de l'usage de cette recette mécanique qui évidemment, où est-ce qu'on a mis la certitude ici, à l'arrivée. On passe l'étape intermédiaire qui serait celle de la mise en fonction, non pas de l'autre divin, mais du sujet supposé savoir, en tant que partenaire choisi. Je vais de côté.
Quand l'arrivée, tu ne l'avais pas mise en bas ?
L'arrivée, c'est là. L'arrivée, c'est là, le réel, la croyance. C'est ce que je cherchais au départ. C'est ce que le noyau de réel dans la croyance. Si au départ elle paraît imaginaire, elle a besoin d'être de passer à une conviction puis à une certitude, il y a néanmoins quelque chose qui ne se résorbe pas, qui est présent dès le départ. Si tu veux, le lapin de la certitude est présent dans le chapeau de la croyance. Et donc à l'arrivée, il y a la croyance dans sa dimension réelle et la certitude comme symbolique. Effectivement, la certitude comme symbolique, ça n'est pas le sens dernier de l'autre, mais c'est le non-sens. Elle est divisée entre non-sens d'un côté et une jouissance phallique qui est hors corps. Et cette certitude existe, mais concerne le sujet, le par-l'être comme corps, que à travers le non-sens. Voilà comment se déroulent les choses. Alors, est-ce que ça dit quelque chose ? C'est une autre affaire. Mais il me semble qu'effectivement, là où il y a des positivités qui s'affirment, ou qui veulent s'affirmer, la positivité du moi personnellement, je pense que, la croyance en l'autre divin, et quand même l'inquiétude de la chose qui rôde derrière, eh bien, là, il n'y a plus que des négativités. Là, il y a effectivement le non-sens, une jouissance phallique qui est hors corps, et une jouissance autre qui ne peut pas se dont on ne peut rien dire, puisqu'elle existe symbolique. Là, on ne peut rien dire, là, ça n'a pas de sens, et là, ça ne s'éprouve pas. Et voilà comment s'ordonne finalement, me semble-t-il, la certitude de la croyance en l'inconscient, se nouer quelque chose qui n'a pas de sens, avec quelque chose qui est hors corps, et quelque chose qui s'éprouve, mais dont on ne peut rien dire. Donc maintenant, il faut voir si ça nous apporte quelque chose. Là, je vais jouer la machine, il faut goûter les produits qui en sortent pour voir s'ils sont comestibles.
Oui. Le... Parce que, si, si. Moi, je... Bon, j'ai apprécié finalement vos définitions du départ, parce qu'effectivement, ça permet de partir. L'idée que la croyance implique le doute, et effectivement, la certitude, donc, n'implique pas le doute. Bon. La chose intéressante avec le temps logique, c'est comment on arrive à une certitude dans une opération logique, etc. Comment on arrive à une certitude, et ouais, c'est vrai.
Ce qui est intéressant, le passage auquel tu fais allusion, je crois que c'est celui-là, tu me confirmeras, c'est que justement Lacan s'oppose à Descartes. Il dit que la certitude ne procède pas du doute, mais que justement c'est parce qu'il y a la certitude que le doute vient la confirmer.
C'est parce que je doute que je suis. Je pense, et donc je
mais ça, c'est Descartes.
C'est Descartes.
Là, c'est Descartes, mais il y a, au Lacan, il y a une certitude que le doute confirme.
C'est-à-dire que ce qu'il y a dans les... Bon, c'est difficile de raisonner sur ces termes, justement, partant du temps logique, sans impliquer la question du temps. C'est-à-dire que...
Et de l'après-coup.
Voilà. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, évidemment, ce qui est intéressant, ce que j'ai dit aussi, c'est la certitude anticipée. Qu'est-ce qui veut dire avec ça? Parce que c'est assez compliqué, finalement, le temps logique. Et on a l'idée que c'est quelque chose qui est qui implique tout le parcours de Lacan jusqu'à la fin. Ça l'implique. C'est-à-dire.
Permet Jean-Jacques, une des réponses très simples à cette question, la certitude anticipée, c'est celle sur laquelle repose tout l'argumentaire logique. Devant deux noix, on sait qu'on est en blanc.
Devant deux
noix, on sait qu'on est en blanc, puisqu'il n'y a que deux noix.
C'est quand il n'y a pas de noix que la question devient intéressante. C'est quand il n'y a pas de noir que...
Mais la certitude de départ dans l'énoncé du problème, c'est celle-ci. Et tout le reste découle de là. Si tu prends le texte, il faut effectivement le prendre ligne à ligne, il est complexe, mais tout le raisonnement logique découle de ça, de ce fait. C'est pour ça qu'il faut, quel que soit le nombre de joueurs, qu'il y ait un nombre de noirs, qui est le nombre de joueurs, moins 1, 2, 3, qui est le nombre minimal, 2 manches noires, on est blanc. Ça, c'est l'objet. Et c'est ça qui permet de répondre à la question, que fait-on devant deux noirs ?
Oui, certes, néanmoins, dans le parcours que fait Lacan dans le temps logique, il arrive à un point, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est l'histoire des deux temps à la sortie. Moi, je pense que le temps, l'anticipation du temps concerne les deux sorties. C'est-à-dire la première sortie où, n'est-ce pas, il a la conviction de, et en réalité, il a besoin que les autres aient compris la même chose pour pouvoir sortir.
Il a besoin de vérifier qu'il est au même temps que les autres. Effectivement.
C'est le point. Alors, si c'est ça qui permet la certitude, parce que pour qu'il y ait certitude, il faut que les autres aient fait le même raisonnement que lui. Bon. Donc là, à mon sens, j'ai envie de dire que dans l'histoire, dans l'histoire, la question de la croyance, enfin, la seule croyance qui peut exister, c'est celle que les autres vont faire le même raisonnement que lui. C'est-à-dire, c'est toujours la dimension que nous, on appellerait la dimension transférentielle qui est en jeu. C'est-à-dire que l'autre fasse le... C'est cette croyance. Le sujet supposé savoir, c'est le sujet supposé savoir faire le raisonnement. Je le dis comme ça. Oui, il y a beaucoup de variations, mais si on le prend par rapport au temps logique, ça donne ça. Et donc, le sujet supposé savoir le raisonnement, c'est l'autre. Évidemment, on voit bien qu'on y met le psychanalyste à cette place-là, et qu'en effet, la sortie, la certitude de sortie, alors, après, on se dit, mais au fait, pour... Quelle est la déçue? Après, on a d'autres questions. Hein. Quelle est la pourquoi il faut la désupposition, etc. Après la certitude. Pourquoi la certitude implique la chute du sujet supposé savoir? Ça, c'est une question, je vous la laisse. Hein. On ne va pas tout faire. Mais sur la question de la certitude, donc là, je trouve que ce qui est effectivement intéressant dans cette histoire de l'athée, c'est l'implication, la parole, l'autre, tous les deux insistaient là-dessus, c'est-à-dire que la croyance implique la parole, mais la croyance effectivement concerne le sujet supposé savoir, la certitude est sur un autre plan. C'est-à-dire, elle n'est pas sur ce plan-là. C'est le plan logique. C'est le plan logique qui fait qu'il y a le raisonnement logique qui permet de déduire logiquement que j'ai un blanc, n'est-ce pas ? Donc, mais ce raisonnement logique qui permet la certitude, il est, disons, il y a deux. Il y a deux ordres.
Participer et vérifier. C'est comme ça qu'il s'exprime, d'accord ?
C'est ça, oui, oui. Mais c'est disons qu'il répartit les choses. Voilà.
Juste un mot, si tu permets, j'ai pas répondu à la question de Sol sur le côté jamais acquis de la certitude. Effectivement, je crois que là aussi, avec la petite machine, la petite mécanique, on voit bien qu'il dit peut-être peut-on juste à dire que ni croyance, ni conviction, ni certitude ne sont jamais acquises. C'est toujours l'effet d'un acte de parole, donc d'une décision, de la décision de la parole. Et en plus de ça, une certitude, par exemple, au départ jamais acquise, pour illustrer, effectivement, elle est toujours divisée, qu'elle soit réelle. Où là, je dis dans l'imaginaire ou dans le symbolique, la certitude est toujours divisée. Là, elle est divisée dans l'autre du symbolique qui existe. L'autre est le désir, c'est quand même le désir de l'autre. Et donc, le trou dans l'autre de quelque chose qui est justement dans la chose, entre l'autre et la chose. Et cette division ne s'unifie pas, mais s'articule en opposition à ce qui existe, à savoir l'image représentée. Donc il y a toujours effectivement division qui se soutient d'une existence qui s'oppose à cette division. Donc il n'y a pas de stabilité.
Juste un mot, vous auriez peut-être pu nous dire un mot de ce que vous entendiez par le politique, puisqu'il était dans votre titre.
Oui, mais j'en ai un petit peu parlé.
Oh, ça vaut un autre. Hein? Ça vaut un autre exposé.
Ben, moi, je l'ai mis en termes de questions. Hein. Question de la place de la psychanalyse aujourd'hui et les réponses à produire. Oui, c'est tout un programme. Hein. C'est tout un programme qui m'intéresse.
Voilà. Bon.